Vous écoutez, on lit pour vous.
Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans? Un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse. À TVA et à Radio-Canada, la plupart des têtes d'affiche ont la cinquantaine, parfois la soixantaine. Ce n'était pas ainsi il y a 20 ans, voire il y a une dizaine d'années encore. Comme si le bassin de personnalités qui peuvent animer une émission à heure de grande écoute avait cessé de se renouveler. Lorsqu'on jette un œil à la programmation télé de la saison 2015-2016, la situation était tout autre. Les deux principales chaînes de télé confiaient encore les rênes d'émissions phares à des animateurs relativement jeunes et souvent peu expérimentés. À TVA, par exemple, Marie-Pierre Morin, qui avait alors à peine 29 ans, héritait de sa première émission à heure de grande écoute. À Radio-Canada, Jean-Philippe Vautier, 36 ans, faisait ses débuts en variété. Jean-Philippe Dion était aussi de cette nouvelle garde à l'époque. Signe que le milieu de la télé a pris de l'âge, l'animateur de 42 ans est encore parmi les plus jeunes têtes d'affiche du petit écran 10 ans plus tard. Je fais un peu partie de la dernière génération de gens qui peuvent se présenter comme des animateurs de métier. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent animer ont moins d'occasions de faire leurs preuves. Musique Plus, qui a été une école pour tellement de monde, n'existe plus. Il y a beaucoup moins d'émissions qui embauchent des chroniqueurs, observe l'animateur de Sucré Givré. J'en reçois encore des CV de gens qui veulent animer, dit Jean-Philippe Dion. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas quoi faire avec. Il n'y a plus tant d'opportunités pour eux. L'animateur et producteur s'est fait un point d'honneur de s'entourer de nouveaux venus comme collaborateurs à son émission Sucré Givré. Mais il ne se berce pas d'illusions. Mettre de nouvelles têtes en onde n'attirera pas davantage les jeunes qui ne regardent plus la télé traditionnelle. L'expérience d'abord. Il s'en trouvera toujours pour dire que les moins de 40 ans délaissent la télé traditionnelle parce que les principaux animateurs ont parfois l'âge de leurs parents. Or, faire ce calcul serait simpliste, selon Jean-Philippe Dion. S'il existe un lien entre les deux phénomènes, il est tout au plus indirect. La crise que vit le milieu de la télé a un lien avec le fait que l'on voit moins de nouvelles têtes, dans la mesure où il y a beaucoup moins de prises de risques qu'avant. Les budgets sont serrés. On a moins de jours de tournage. Le temps en montage est compté. On peut beaucoup moins se permettre de travailler avec quelqu'un qui a moins d'expérience, avance Jean-Philippe Dion. On valorise aujourd'hui davantage l'expérience que le vent de jeunesse que peut apporter un animateur à une émission, explique Jean-Philippe Dion, producteur, entre autres, du Tricheur. Dans le processus pour trouver un remplaçant à Guy Jodoin, à la barre du jeu questionnaire l'an prochain, c'est d'abord et avant tout ce facteur qui a été pris en considération. La décision s'est finalement arrêtée sur José Godet, dont la feuille de route est bien garnie. Déficit de notoriété. Les diffuseurs sont aussi moins portés à renouveler leur programmation. Il y a 20 ans, une émission de divertissement durait généralement quelques saisons avant d'être remplacée par une autre, même quand les codes d'écoute étaient encore honorables. Aujourd'hui, les émissions qui fonctionnent bien sont pratiquement automatiquement reconduites. Infoman en est à sa 26e saison. Tout le monde en parle à sa 22e. Alors qu'En direct de l'univers dure depuis 17 ans. Toujours avec les mêmes animateurs, intrinsèquement liés au succès de leur émission. Il y a beaucoup de succès qui durent, ce qui explique en grande partie pourquoi il y a autant d'animateurs de plus de 50 ans. Par contre, quand je vois les nouveaux shows, ce sont quand même des gens plus jeunes. Je pense à Marie-Mé avec Big Brother Célébrité ou à Marc-André Grondin pour Hot Ones. Ça me dit qu'il y a quand même un renouvellement. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des gens dans la quarantaine que dans la trentaine. 40 ans, c'est pas mal le sweet spot en télévision maintenant. Observe Charles Lafortune qui entame sa 11e saison à la barre de La Voix. L'animateur de 56 ans vient d'une époque où ce sweet spot était plutôt dans la trentaine, la tranche d'âge dans laquelle se situaient il y a 20 ans les grosses vedettes de l'heure comme Véronique Cloutier, Sébastien Benoît, Julie Snyder, Guy Jodoin, Julie Bélanger ou encore Mélanie Ménard. Bref, les mêmes qui sont aux commandes des principales émissions de divertissement deux décennies plus tard. C'est plus difficile aujourd'hui de trouver des trentenaires qui sont des points d'ancrage que tout le monde connaît, nous dit Charles Lafortune. De la même manière que quand on fait La Voix, c'est beaucoup plus difficile de trouver de nouvelles chansons que tout le monde connaît. Il y a moins de références communes, mais les annonceurs cherchent encore des gens qui ont une grande notoriété, poursuit Charles Lafortune, qui porte également le chapeau de producteur. Moins d'intérêt à animer. Pour la saison 2025-2026, la moyenne d'âge des animateurs à Radio-Canada s'élève à 52 ans et à 53 ans pour TVA. C'est 10 ans de plus qu'à Novo, qui ne s'est jamais caché de vouloir rejoindre un auditoire plus jeune, notamment avec Occupation double et ses deux animateurs dans la vingtaine. Le vieillissement des têtes d'affiche à la télé est un sujet vraisemblablement délicat pour les diffuseurs. Ni TVA, ni Radio-Canada n'a accepté de nous parler. Le producteur Guy Villeneuve insiste pour dire qu'il ne note aucune réticence de la part des grands réseaux à embaucher des animateurs plus jeunes. Au contraire même. Il se souvient que TVA était emballé à l'idée que Sarah-Jeanne Labrosse anime la compétition de danse Révolution produite par sa boîte Fairplay. C'est plutôt la comédienne, à l'époque dans la fin de la vingtaine, qui s'est longtemps montrée hésitante, avant de finalement se laisser convaincre. S'il y a moins de jeunes qui animent à la télé, c'est aussi parce qu'il y a moins de jeunes qui veulent animer. Avant, tous les humoristes voulaient avoir leur émission. Ça leur permettait de vendre des tickets, de rester dans l'œil du public entre deux tournées. Ils en ont beaucoup moins besoin maintenant. Pour dire oui à un projet, il faut vraiment que le concept leur parle, souligne Guy Villeneuve. Méthodologie. Dans le cadre de cet article, nous avons analysé la grille horaire des trois grands réseaux généralistes durant l'automne et l'hiver 2025-2026, 2015-2016 et 2005-2006. Nous avons pris en compte l'âge des animateurs des émissions de divertissement. Cela inclut Salut bonjour et Salut bonjour week-end, mais pas les émissions d'information, comme les bulletins de nouvelles, Enquête ou JE. Les émissions qui font partie du mandat de Radio-Canada, comme Découverte ou La facture, n'ont pas non plus été prises en considération. Nous ne nous sommes pas non plus intéressés aux émissions diffusées en plein cœur de la journée le week-end. C'était « Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans? » Un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse.
Tous les adolescents sont anxieux et c'est normal. Un texte de Romy Roynard paru le 12 du 16e mois 2024 dans le Journal de Québec. Grand bouleversement, changements hormonaux et nouvelles relations sociales, à l'adolescence, de multiples raisons expliquent l'augmentation de l'anxiété. Comment la gérer et quand faut-il s'inquiéter? Dans le deuxième volet de Vice-versa, Riley vient d'avoir 13 ans et est sur le point d'entrer dans l'enseignement secondaire. L'île de l'amitié a pris une place prépondérante dans son cerveau, faisant de l'ombre à celle de la famille. Ses émotions, joie, tristesse, peur, colère et dégoût ont créé une nouvelle section de l'esprit, l'estime de soi qui abrite des souvenirs et des sentiments qui représentent la personnalité fondamentale de Riley. Les croyances qui la définissent. Alors que Riley s'apprête à partir pour un camp d'été, la console émotionnelle déclenche une alarme. Puberté. Un groupe de travailleurs de l'esprit fait irruption dans le quartier cérébral pour améliorer la console et avertit les émotions que les autres arrivent. Les autres, ce sont envie, ennui, embarras et leur chef, anxiété. Très vite, anxiété prend le dessus et rejette l'estime de soi au fond de l'esprit de Riley. Elle considère également que les anciennes émotions ne sont pas assez complexes pour répondre aux besoins de Riley et les expulse du quartier cérébral. À l'âge adulte, combien d'entre nous se souviennent de l'adolescent qu'ils ont été? Combien le souhaitent, tant cette période peut être éprouvante? Devenue une adulte peu anxieuse, je me suis forcé à me replonger dans mes émotions adolescentes. L'anxiété était-elle alors prépondérante? Cette émotion est-elle inextricablement liée au tumulte de l'adolescence? Est-elle inévitable? Et si tel est le cas, comment apprendre à la gérer? L'anxiété, l'invité surprise de l'adolescence. Grâce aux techniques récentes d'imagerie dynamique non invasive du cerveau, des chercheurs sont parvenus à comprendre des processus importants du développement du cerveau entre l'âge de 10 et 20 ans. Durant cette période, le cerveau se réorganise en profondeur, notamment au niveau du cortex préfrontal, siège des fonctions cognitives dites exécutives, le langage, la mémoire, le raisonnement. Les connexions et les fonctions de ces structures changent, pour ne se fixer que dans la première moitié de la trentaine. Cette plasticité renouvelée est une chance de rectifier les déséquilibres observés dans la petite enfance. C'est aussi une phase de grande vulnérabilité. Il y a au moment de l'adolescence un changement brutal de l'architecture cérébrale. Elle change pendant toute l'enfance, mais à l'adolescence, le système limbique ou cerveau émotionnel se développe beaucoup plus rapidement que le cortex préfrontal. La maturité postérieure du cortex préfrontal arrive à la fin de l'adolescence. C'est pourquoi la recherche de récompense immédiate n'est pendant cette période pas contrebalancée par une forme de contrôle. C'est pour cela qu'on observe beaucoup de conduites à risque et de débuts d'addiction chez les adolescents, étaye Philippe Erkberg, psychiatre ancien interne des hôpitaux de Paris installé à San Fernando, en Espagne. L'un des changements hormonaux les plus importants, mis en lumière dans un article paru dans Nature Neurosciences, serait lié à l'augmentation de l'anxiété à la puberté. L'hormone THP, allopregnanolone, présente dans le sang et le cerveau et normalement libérée en réponse au stress chez les adultes et les enfants préadolescents, serait inhibée chez les adolescents, provoquant une plus grande anxiété à la puberté. Chez les enfants et les adultes, des hormones stéroïdes sont libérées en cas de stress continu. Après 20 minutes en moyenne, il a été démontré chez les rongeurs et les humains que cette hormone allopregnanolone était plus présente, explique Cheryl Smith, professeur émérite de physiologie et pharmacologie à la Sony Downstate Medical School et co-autrice de l'étude. Son rôle est d'agir contre les récepteurs alpha-4-bêta-delta-gaba en les inhibant, ce qui vous permet de vous détendre. C'est un mécanisme qui nous permet de réagir au stress. Mais tout change à l'adolescence. À l'adolescence, les récepteurs alpha-4-bêta-delta-gaba augmentent de façon exponentielle dans plusieurs régions du cerveau, dont celle régulant l'humeur, le cortex préfrontal. Cette augmentation ne serait pas grave si l'allopregnanolone pouvait agir et réguler l'activité cérébrale en cas de stress. Mais à la puberté, l'allopregnanolone provoque une désensibilisation beaucoup plus importante. Les récepteurs, au lieu d'être capables de détendre les cellules nerveuses, n'ont que très peu d'effet. Le résultat que nous observons chez les souris à la puberté est une augmentation de l'anxiété. Si nous faisions la même injection avant ou après la puberté, nous constatons une diminution de l'anxiété. Les stéroïdes libérés en réaction au stress ont donc l'effet inverse à la puberté en raison de la forte augmentation de ces récepteurs dans une partie du cerveau où l'allopregnanolone a l'effet inverse. Quand faut-il s'inquiéter? Il est courant que les adolescents ressentent une augmentation de l'anxiété en raison des changements hormonaux, cognitifs et sociaux qui surviennent durant cette période. Abonde Ariane Hébert, psychologue québécoise et fondatrice de la boîte à psy, qui accompagne une patientèle d'enfants et d'adultes et a notamment écrit « L'anxiété racontée aux enfants ». L'adolescence est une période faite de changements, de questionnements et d'inconnus. Qui suis-je par rapport aux autres et pour les autres? Quelle est ma place dans le monde? À l'adolescence, il faut accepter son nouveau corps, l'intégrer à l'image de soi, développer ses propres valeurs, devenir plus autonome et faire des choix difficiles pour décider de son avenir professionnel. Quel adulte ne se sentirait pas submergé face à tant de changements en des temps si courts? Néanmoins, je ne considère pas que l'anxiété à l'adolescence soit inéluctable pour tous les jeunes. Nuance Ariane Hébert. Les influences familiales, sociales et les expériences individuelles jouent un rôle crucial dans la manière dont l'anxiété se manifeste. Avec un soutien approprié, comprenant des techniques de gestion du stress et un environnement familial stable, il est très raisonnable de penser que les adolescents peuvent apprendre à gérer leur stress de manière efficace. Quels sont les critères permettant d'établir que l'anxiété est suffisamment sévère pour être considérée comme un trouble? Pour Ariane Hébert, il faut distinguer les troubles anxieux de la peur ou de l'anxiété passagère. Pour être considérée comme un trouble, l'anxiété doit être persistante, ce qui signifie qu'elle persiste sur une longue période et excessive, se manifestant de manière disproportionnée par rapport à la situation réelle, dépassant ce qui serait normalement attendu dans des circonstances similaires. De plus, elle doit entraîner une détresse suffisante pour perturber significativement la vie quotidienne de l'individu. Vous écoutez, tous les adolescents sont anxieux, et c'est normal. Un texte de Romy Roynard, paru le 12 du 7e mois 2024 dans le Journal de Québec. Suite. Les techniques de gestion du stress. De plus en plus de praticiens recommandent une approche holistique pour la gestion des troubles anxieux, notamment des techniques de respiration profonde, la relaxation, le yoga, la visualisation, la musique comme autant d'outils pratiques dont il est possible de faire usage pour gérer les sensations désagréables liées à l'anxiété. La méditation, par exemple, peut vous aider à avoir une réaction moins forte au stress. L'allopregnanolone ne sera pas libéré en grande quantité et l'anxiété sera moins forte, indique Cheryl Smith. Des ajustements du mode de vie sur le long terme peuvent également induire la production des quatre hormones du bonheur, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. La production d'une partie de ces hormones est liée à une alimentation équilibrée et variée, synonyme de microbiote intestinal en bonne santé. L'intestin fournit entre 90 et 95 % de la sérotonine de l'organisme. Cette hormone transmet les messages entre les cellules nerveuses et aide à réguler le sommeil, l'humeur et la digestion. Le microbiote intestinal contribue aussi à la production d'autres neurotransmetteurs et substances chimiques, telles que la dopamine et la tryptamine, qui jouent un rôle dans l'anxiété et la dépression. Pour rééquilibrer son microbiote intestinal, il est recommandé de consommer des aliments riches en fibres, comme des glucides complexes contenus dans les céréales, des légumes et des légumineuses, ainsi que des aliments fermentés qui contiennent leurs propres probiotes, des micro-organismes vivants qui augmentent la diversité du microbiote dans l'intestin. Il est aussi recommandé de limiter la consommation de sucre et de les associer à des fibres. Les endorphines sont libérées par l'activité physique, par un divertissement comme de la musique ou un film, mais aussi par le rire. Le contact physique, comme les étreintes, les embrassades ou les rapports sexuels, sont autant de déclencheurs infaillibles de la libération d'ocytocine. Il a également été démontré que le fait de participer à une conversation, de rendre service ou d'interagir avec un animal provoquait une libération d'ocytocine. Pour bénéficier des avantages des techniques et stratégies de gestion de l'anxiété, les enfants et adolescents ont toutefois besoin de référents, rappelle Ariane Hébert. Le rôle du parent devient celui de tuteur et de modèle dans l'application de ces stratégies. Dans une perspective préventive, il est crucial d'être prévisible et bienveillant, de fixer des objectifs clairs, et de nourrir le sentiment d'appartenance ainsi que l'estime personnelle de l'enfant afin de créer des conditions de développement optimales. Elle juge par ailleurs tout aussi essentiel d'apprendre aux enfants à confronter leurs pensées anxieuses et à les remplacer par des pensées plus aidantes. Une nouvelle émotion. Si l'adolescence est synonyme d'un pic de l'anxiété, les premiers signes peuvent apparaître dès le plus jeune âge, généralement entre 4 et 6 ans, même dans un environnement stable, c'est-à-dire sans violence intrafamiliale ou scolaire et sans stress traumatique. Parmi les signes et symptômes les plus courants, on observe des changements brusques de comportement tels que l'agitation, l'irritabilité et des excès de colère intenses. Les enfants peuvent également éprouver des difficultés de concentration ou de mémoire, des modifications d'appétit, une propension à la fatigue rapide, ainsi que des défis dans l'établissement de relations sociales, préférant souvent la solitude et ayant des difficultés à s'exprimer en public, énumère Ariane Hébert. Sur le plan physique, ils peuvent se plaindre de maux de ventre, de maux de tête ou ressentir une tension musculaire. Les troubles du sommeil sont aussi fréquents. En outre, ils peuvent rechercher constamment l'assurance de leurs parents, préférant rester près d'eux ou posant des questions de manière répétée. Paul Ekman, psychologue américain et l'un des spécialistes les plus influents dans l'étude des émotions, a élaboré en 1973 la théorie des six émotions primaires universelles. La joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère et la surprise. Une théorie remise en question en 2017 par des psychologues de l'Université de Californie à Berkeley qui ont identifié 27 catégories distinctes permettant de décrire toute la palette des émotions qui colorent notre monde intérieur. Admiration, adoration, appréciation esthétique, amusement, colère, anxiété, émerveillement, malaise, embarras, ennui, calme, sérénité, confusion, envie, craving, dégoût, douleur empathique, intérêt étonné, intrigué, excitation, stimulation, montée d'adrénaline, peur, horreur, intérêt, joie, nostalgie, soulagement, romance, tristesse, satisfaction, désir sexuel, surprise. Si toutes les émotions ne coexistent pas nécessairement dès l'enfance, certaines sont déjà installées et selon les expériences que l'enfant vivra et son entourage direct, elles pourront évoluer ou s'intensifier. Dès la naissance, les enfants commencent à développer leur capacité à ressentir et à exprimer différentes émotions. Leur jardin est une terre fertile prête à accueillir une multitude de graines. Les premières graines plantées sont souvent celles liées à des besoins fondamentaux tels que la faim, le confort et la sécurité. Image Ariane Hébert. À mesure que l'enfant grandit, de nouvelles graines d'émotions plus complexes comme la fierté, la honte, la culpabilité et l'embarras sont plantées. Chaque expérience personnelle, chaque interaction avec l'entourage aide ces graines à germer et à s'épanouir. Une rapide introspection m'a permis de me rappeler que mon adolescence, comme les autres, avait été marquée par une plus grande anxiété, des épisodes qui me paraissaient toujours marqués par l'embarras deux décennies plus tard. Mais de la même manière que les émotions de Riley apprennent à se connaître pour coexister au mieux, j'ai appris à gérer les épisodes de stress, du moins jusqu'à ce que mes enfants entrent à leur tour dans l'adolescence. C'était « Tous les adolescents sont anxieux et c'est normal », un texte de Romy Roynard paru le 12 du 7e mois 2024 dans le Journal de Québec.